Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Salut, on est super content de vous présenter la saison 4 de J'ai fait un humain et il y a plusieurs nouveaux épisodes qui sont disponibles. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez enregistrer un épisode privé de J'ai fait un humain en ma compagnie, ben c'est maintenant possible. Ça fait un super beau souvenir pour vous et pour vos humains. Pour plus d'infos, écrivez-moi sur les réseaux sociaux.
Cube Radio.
Salut, c'est Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je reçois un couple de mamans, Maryse et Caroline. Quand ils ont décidé d'avoir un bébé, leur plan était clair, net, précis. C'est Maryse qui allait porter le premier bébé parce que c'est elle qui est la plus vieille du couple et le bébé numéro 2 qui viendra éventuellement sera porté par Caroline. Le plan de départ s'est transformé, a évolué, puis les filles, ben, ils n'ont pas eu le choix de s'adapter. Puis en bout de ligne, ils l'ont eu, leur bébé. Mais ça n'a pas pris le temps qu'ils pensaient que ça allait prendre, puis c'est pas celle qui devait tomber enceinte qui est tombée enceinte, finalement. J'aime l'histoire de Maryse et Caroline parce que ça touche à tellement de sujets. Ben, premièrement, il y a l'homoparentalité. Deuxièmement, il y a le chemin dans les cliniques de fertilité. Puis troisièmement, ben, il y a l'accouchement en maison de naissance. Vous allez être servis, là! Caroline, Maryse, vous êtes en couple et depuis combien de temps?
6 ans, oui. 6 ans, en janvier, oui.
Bien, félicitations pour vos 6 ans qui viennent tout juste de passer. Et vous êtes aussi maman d'un beau petit Édouard qui a 1 an et demi ou qui va avoir 1 an et demi. Et là, moi, je vous ai invité aujourd'hui, en fait, parce que votre parcours est vraiment incroyable et je pense que c'est une histoire qui va rejoindre beaucoup de monde qui nous écoute parce que les fins renards auront remarqué dans vos prénoms, Maryse et Caroline, que vous êtes 2 mamans.
Oui.
Mais qui manque peut-être un petit ingrédient quand on veut faire un bébé.
Une petite semence.
que nous, on produit pas.
Malgré tous les efforts.
Malgré la volonté, là, c'est impossible.
Comment ça a commencé? C'était quoi le plan au départ?
Ben, au départ, je devais porter le bébé parce que je suis un petit peu plus vieille que Caroline. Puis, c'était ça le plan. Puis, donc, on a décidé j'allais passer les tests parce que en insémination, on doit passer beaucoup de tests médicaux. Des tests sanguins.
Oui, c'est ça.
Des tests de base aussi. Je me rappelle avoir pris beaucoup de prises de sang.
Oui, pour voir les taux d'hormones, tout ça.
Mais ce qu'on apprend, c'est que moi, j'ai des ovaires polykystiques.
Qu'est-ce que c'est?
En gros, c'est que le follicule ne devient jamais un ovule?
Non, l'ovule ne devient jamais un follicule.
Oui, c'est vrai.
Bien, dans les deux cas, je comprends rien. Je ne sais pas c'est quoi un follicule.
En gros, c'est qu'on ne peut pas se fier à aucun test d'ovulation.
Ah, parce qu'on ne sait pas s'il va avoir ovulation ou non.
Exact. Donc,
il y a comme une genre de compétition qui se fait entre les ovules, puis tout ça. Puis au final, il y a aucun follicule qui se rend à maturité. Donc, tu penses que tu as une ovulation, tu as un cycle qui peut être tout à fait régulier, puis tout ça, mais au final, ce mois-là, tu n'étais pas vraiment fertile.
Exact.
Souvent, chez les couples hétéros, ça fait en sorte que ça prend beaucoup plus de temps avant de réussir à avoir un enfant, mais de temps en temps, il y a une vraie ovulation, fait que souvent, ça va fonctionner, mais ça va être plus long, mais il y en a quand même qui vont en fertilité, tout ça. Mais nous, c'est pas une option d'essayer pendant 2 ans.
T'sais. Non, on peut pas y aller naturellement, donc on n'a pas le choix d'aller en fertilité.
Puis, je veux juste savoir, quand vous apprenez cette nouvelle-là, tu sais, parce que vous, le plan, c'était Maryse en premier, Caroline en deuxième. Quand vous apprenez que peut-être t'es un petit peu moins fertile ou que tu vas peut-être avoir un petit peu de difficulté, qu'est-ce que vous vous dites?
On s'est dit, on va essayer quand même. On va voir ce que ça donne. Je veux dire, on a quand même 3 essais avec mon protocole. Donc, on va essayer les 3. Nous, ben non, plus moi, je voulais pas avoir à prendre beaucoup d'hormones. Je voulais pas non plus aller dans l'acharnement. Puis c'est vraiment, oui, c'est une décision de couple, mais c'était aussi une décision de moi aussi, parce que c'est difficile sur le corps aussi.
Je suis curieuse, Maryse, de savoir, mettons, là, tu as le protocole, tu te fais inséminer.
Oui.
Exact. Et là, après, tu sais, quand tu sais que ça marche pas, qu'est-ce qui se passe?
Bien, au premier, en fait, moi, je me rendais même pas au test de grossesse, là. Je veux dire, j'avais mes règles avant le 12 jours, 10 jours à peu près, je me rendais pas. Donc...
Parce que, mettons, tu te fais inséminer, puis là, tu dois attendre 12 jours pour après ça faire un test de grossesse.
Exact.
Mais toi, tu avais tes règles avant de 30.
Oui, donc c'est sûr que ça fonctionnait pas, là. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, qui faisait que donc, j'avais mes règles plus rapidement.
Ah oui.
Puis...
Puis quand, justement, là, c'est vraiment une question très précise, mais je veux quand même y aller. Quand tu vas à la salle de bain, tu découvres que tu as tes règles.
Ah, c'est la déception. Déception, mais je me dis, ah, c'est la première fois. C'est pas la fin du monde. C'est pas grave. J'ai encore 2 autres essais. On va y aller comme ça, mais c'est le même protocole. Donc, pour l'instant, on continue. On continue comme ça. Sauf que, aussi. Ce qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est qu'avant les inséminations, on doit choisir un donneur aussi. On doit choisir une banque.
Bien, justement, comment ça fonctionne, choisir un donneur?
C'est ça. C'est un peu comme magasiner, je dirais, en ligne. Mais c'est vraiment propre à chacun, je pense. Mais tu sais, dans notre cas, nous, on voulait vraiment avoir une photo. Pour nous, c'est important. Je connais des gens qui voulaient absolument pas avoir de photos, qui veulent anonyme, 100%. Ce qui est bon avec les banques québécoises, c'est que c'est anonyme. Pour ceux qui veulent ça, c'est...
100% anonyme. Par contre, t'as aucune photo, t'as pas énormément d'informations sur le physique de la personne, sur sa personnalité. Puis tout ce qui est médical, c'est là. Par contre, nous, on voulait un peu plus connaître notre donneur. On voulait avoir des photos, tout ça. Donc, pour nous, c'était une banque américaine. On n'avait pas vraiment d'autres options en tête. Ils nous envoient sur un site. On a comme 2-3 banques comme choix. Puis là, tu arrives dans une espèce de catalogue où tu peux choisir des caractéristiques que tu veux ou que tu veux pas. Puis tu coches des boîtes, puis ça te donne des profils.
Oui, c'est des filtres. Carrément.
Ah ben pareil comme du magasinage.
C'est pareil.
Oui. Oui. Donc nous, on n'était pas très, on voulait pas qu'ils nous ressemblent. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui mettons se disent, ah, Maryse va porter, donc vous allez prendre un donneur qui ressemble, qui me ressemble à moi. Mais on n'était pas nécessairement là.
Non, parce qu'on s'est dit que si ça fonctionne pas, Caroline va porter, donc. Celle-là, ça fonctionnera plus, ce raisonnement-là. Donc, on va en prendre un qu'on trouve beau, tout simplement.
C'était pas mal notre critère de base. Oui. Premièrement, qu'il n'y ait pas rien comme de problème génétique et tout ça, parce qu'on s'est dit, tant qu'à avoir le choix, on va pas prendre quelqu'un qui a un problème génétique.
Donc, vous magasinez votre donneur, vous finissez, après un conseil de famille, en trouver un qui est un coup de cœur, vous faites venir 3 échantillons, on est prêt à partir. Premier protocole, ça marche pas. Deuxième protocole, ça marche pas. Troisième?
Ben là, c'est ça. Le troisième, on commence à se poser des questions. On commence le troisième protocole, puis ça fait déjà un an qu'on essaie, dans le fond. Fait qu'on a fait 6 essais en un an et ça fonctionne pas. Et là, on passe par toutes les gammes d'émotions à chaque fois. Plus ça va, moins on y croit.
Ouais.
Fait que t'arrives proche de la date, puis c'est comme, ben, pourquoi ce mois-ci ça fonctionnerait alors que ça fait un an que ça fonctionne pas?
Exact.
Fait que là, on arrive au troisième protocole, puis on est dans ce mood-là un peu pessimiste, puis
Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que après mon troisième protocole, ça n'a pas fonctionné. Je dois revoir le médecin pour qu'il ajuste mon niveau d'hormones à prendre. Donc là, je suis rendue avec des comprimés, avec des comprimés intravaginaux aussi, avec des injections. Là, ça commence pour moi à être limite. J'ai dit, OK, on va essayer, mais je commence à atteindre ma limite parce que aussi, niveau mentalement, ça commence aussi à peser lourd.
Mais qu'est-ce que tu dis dans ta tête, justement? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, du découragement? C'est quoi la gamme d'émotions que tu vis?
Au début, je pense que c'est de la tristesse, de la déception beaucoup. Beaucoup de la déception, je pense. Puis c'est sûr qu'il y a de la frustration qui vient avec ça aussi, parce que je me dis, pourquoi ça fonctionne pas? C'est sûr que je suis pas la première personne à qui ça arrive, que c'est des ovaires polykystiques,
C'est
fréquent, c'est une des causes de troubles de fertilité les plus répandues. Je veux dire, on va y arriver, là. Puis après ça, ben, l'espoir reprend le dessus, puis on recommence. Mais là, il faut choisir un nouveau donneur. On n'a plus d'échantillons.
Ouais, fait que là, on est rendu à notre troisième donneur. Puis là, on se pose des sérieuses questions à savoir si on essaie avec moi au lieu de Maryse. Puis on se met pas de barrière, mais on se dit, tu sais, rendu là, ça fait un an qu'on essaie, puis tout ça. Moi, je suis ouverte à continuer avec Maryse, puis tu sais, on met vraiment aucune pression sur personne, mais on se dit, si on veut changer, faut considérer qu'il y a encore des délais. Donc, on prend rendez-vous pour que moi, je passe les tests de fertilité et tout ça, donc avant le troisième protocole. Fait que je passe les tests de fertilité et grand soulagement, j'ai comme aucun problème. Tout est normal, tout est beau. Donc, le protocole qu'on me donne, moi, est 100 fois plus simple. C'est pas compliqué, j'ai un test d'ovulation à passer à la maison, un test pharmacie.
Aucune hormone,
j'appelle, j'ai un rendez-vous le lendemain matin pour une insémination, puis c'est tout. Donc, on se dit, OK. On a cette option-là qui est beaucoup plus simple, mais ça reste quand même porter un enfant. Donc, on veut pas enlever cette chance-là à Maryse juste parce que c'est donc simple si on essaye avec moi.
On a l'option, on la garde quand même. On a quand même cette chance-là de pouvoir les deux porter un enfant. Mm-hmm. Donc,
mais à toi, Maryse, qu'est-ce que là, je vais bloquer Caroline du regard, on est juste nous deux, là. Mais à toi, qu'est-ce que ça te fait, tu sais, de savoir que ta blonde, elle peut porter, puis que toi, peut-être que ça arrivera pas?
Mais en fait, je suis vraiment contente que pour elle, ça soit pas compliqué. Justement, si on avait eu une situation similaire, je pense que j'aurais été un peu découragée, dans le sens que on revenait au point de départ, tu sais.
Et là, arrive le troisième protocole. Qu'est-ce qu'on fait, là?
Donc là, on a toutes nos informations. On a un nouveau protocole pour Maryse qui vise d'avoir 3 à 4 follicules matures. Donc, risque de grossesse multiple, mais ça fait déjà 6 qui fonctionnent pas. Fait que,
moi, dans
rendu là, on prend le risque.
On s'est dit, tu sais, ça a pas fonctionné avec un. Moi, dans ma tête, j'étais rendu là, là. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait avec 4 de toute façon, donc on va essayer.
Et là, arrive, dans le fond, fait qu'on décide finalement de continuer avec Maryse au moins pour un autre, puis on voit à chaque essai. On va reprendre la réflexion à chaque fois. Et on arrive
L'échographie.
À l'échographie, et il y en a juste un.
Là, moi, dans ma tête, je me dis, OK, est-ce qu'on joue vraiment comme avec du essai-erreur, avec les hormones? Je sais pas, tu sais, je suis censée avoir 4 follicules, j'en ai un. Puis là, on fait juste augmenter un petit peu la dose d'hormones à chaque fois. Puis là, je me dis, je vais me rendre jusqu'à où comme ça? Moi, j'étais contre l'acharnement, j'avais pas envie de ça. Puis là, j'ai perdu comme tout espoir, là, je pense. Faut que tu y crois, là. Aussi, tu sais, oui, il y a du physique là-dedans, mais je pense que si le cœur y est pas, ben, tu sais, tant qu'à moi, ça fonctionnera pas, là.
Mais là, on arrive au dernier, donc.
Ouais, ouais.
Et là, c'est Maryse. tu fais le dernier, mais le cœur y est pas tant.
Non, puis bon, comme de fait, ça n'a pas fonctionné.
OK.
Donc là, on se dit, OK, on essaie un essai avec moi, puis on voit au fur et à mesure. Donc, premier essai, ça fonctionne pas. On se dit, c'est le premier. On est revenu dans ce mood-là.
C'est le premier, ça va.
Donc, tout de suite après, on n'attend pas de délai. Là. Tu sais, je passe mon test de grossesse, c'est négatif, on appelle OVO, on commence un nouveau cycle. Parfait. Et là, deuxième essai, ça fonctionne. Et là, j'ai comme un feeling. Tu sais, je me sens mollo un peu mal de cœur. Puis ça, mais ça fait juste comme 10 jours que j'ai eu l'insémination. Fait que je me dis, je passe-tu un test, je passe-tu pas de test? Bon, on en a plusieurs. Je vais en passer un. Et là, le test est positif, mais tu sais, un vrai positif, là. Pas petite ligne pâle, là.
On dirait qu'il y a un petit peu d'incompréhension ou de doute. Beaucoup, je pense qu'on est dans le doute. Puis, on regarde le test. Puis là, Caro me dit, « Maryse, il est positif. » Puis là, « OK. » On n'a pas... Je dirais que notre réaction n'a pas été de sauter de joie parce que, après tout ce temps-là, on était comme, « Est-ce que c'est possible? » Tu sais, est-ce qu'on peut y croire encore? Puis, donc, oui. Mais ça a été long à réaliser que c'était vrai.
On est un matin de semaine, là. Nous, on commence à travailler, là. C'est comme, OK,
ça
change tout, mais en même temps, ça change rien. Comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, à un moment aussi, tu réalises que, ben ça a fonctionné avec moi, donc ça fonctionnera pas pour bébé 1 avec Maryse, là. Et bébé 1, il s'en vient. Fait qu'il y a comme toute cette réflexion de comme, moi, je me dis, est-ce que je devrais me sentir mal parce que moi, ça a fonctionné, puis ça a pas fonctionné pour Maryse?
Puis moi, je me disais, est-ce que j'ai le droit d'être contente parce que... ou est-ce que j'ai le droit d'être pas contente aussi parce que je porterai probablement pas? On était vraiment dans un dilemme, je pense, mental, chacune de notre côté.
Mm-hmm.
Puis, finalement, on s'en est parlé, puis... Je dis, tu sais, moi, c'est sûr que j'ai de la peine. Je suis vraiment contente, je suis heureuse, c'est certain, là. Mais, oui, j'ai de la peine parce que, tu sais, c'est un deuil. Veux pas... moi, dans ma tête, j'allais porter. J'allais pas être le rôle de second parent, tu sais. Mais ça a fini par passer. Je veux dire, ça n'a pas été si long que ça. Quand tu vois la bédaine qui commence à pousser, puis quand c'est plus concret, c'est plus facile à accepter, je pense, ce deuil-là, je veux dire. Mais la grossesse, je veux dire, je l'ai accepté tout de suite, c'est sûr. Là. Je veux dire, j'étais super contente.
C'est ça. Ça a pris du temps avant qu'on réalise. Puis tout ça, on dirait qu'on se retenait un peu d'être contente.
Ouais.
Mais quand on a fini par le réaliser... C'est comme, ah oui, OK, let's go, on embarque.
Mais je trouve ça tellement intéressant quand vous parliez de cohabitation des émotions, tu sais, parce que Maryse, tu l'as super bien nommé, là, t'étais ultra contente de la grossesse, mais en même temps, il y a une déception, il y a une tristesse, il y a un deuil à faire. Puis les deux qui cohabitent ensemble, ça devait être vraiment dur à gérer.
Ça a été une période, je dirais, quand même silencieuse. On est quand même... deux personnes qui vivent beaucoup... on vit nos émotions quand même beaucoup à l'intérieur, puis le temps qu'on en parle, on savait les deux qu'il se passait quelque chose dans la tête de l'autre, mais ça a quand même pris quelques jours avant qu'on puisse... Tu sais, qu'on s'en parle, parce que c'était quand même difficile.
Je pense qu'il fallait comme réaliser un peu qu'est-ce qu'on vivait chacune de notre côté avant de le verbaliser, là.
Mm-hmm.
Comprendre pourquoi justement le test nous avait pas fait sauter de joie, t'sais, comprendre qu'est-ce qui se passait dans notre tête, qu'est-ce qui se passait pour que justement ce bonheur-là arrive un petit peu plus lentement.
Est-ce que Maryse, t'as l'impression d'être allée au bout? T'sais, est-ce que tu dis, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire, puis c'est correct qu'on passe la POC? J'aime pas dire ça, parler d'un bébé comme de passer la POC, là, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? T'sais, est-ce que toi, avec le recul maintenant, t'es satisfaite du chemin que t'as fait?
Oui. Oui, parce que je m'en serais voulu de pas avoir essayé, de peut-être pas avoir essayé autant, mais je voulais pas aller dans l'acharnement, je voulais pas, pour moi, je veux dire, c'était rendu trop, je voulais pas me rendre plus loin que ça, je voulais pas prendre plus d'injections, plus d'hormones. Moi, je me suis rendue au bout de ce que je voulais. C'est important que Caroline aussi m'appuie là-dedans, ce qu'elle a très bien fait. Aussi, on était d'accord. Elle me suivit comme, dit, si tu veux continuer, on continue. Mais moi, j'étais arrivée au bout, là. J'en peux plus. Puis, sachant qu'elle, ça allait être beaucoup plus facile, je pense que ça l'a aidé à prendre ma décision aussi. Okay, on va y aller, on va choisir la simplicité parce que moi, c'est ça, je suis tannée.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Salut, c'est Charles Tran du balado en 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? La cinquième saison du balado en 5 minutes répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado.
La série Balado en 5 minutes est récipiendaire de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019. Elle a également été nommée au Canadian Online Publishing Awards en 2020.
Et là, bon, on va aller à la grossesse, parce qu'après tout, ça fait un an et demi que vous attendez ça. Caroline, t'es enceinte. La grossesse a bien été.
Oui, exact. Là, t'sais, mis à part le fait que j'ai limité quand même les sports qui...
Pas tant que ça.
J'ai quand même évité tout sport d'équipe, tout ça, qui pouvait avoir des impacts et tout. Puis on m'a interdit de faire du ski nautique avec ma bédaine de 6-7 mois aussi. Mais
je peux croire qu'il a fallu que quelqu'un te l'interdise. Comme toi, t'aurais fait du ski nautique enceinte de 7 mois?
Ben, peut-être pas 7 mois, là, mais mettons au début de l'été, là. Je t'avais pas une si grosse bédaine que ça.
J'aimerais qu'on note ici que Maryse roule des yeux en étant complètement en désaccord.
Donc, oui, Maryse, elle aurait pas voulu, mais mes parents, je pense que mes parents m'auraient confisqué les clés du bateau pour être sûr que j'en fasse pas, là.
Mais elle a quand même fait de la planche à voile à genoux.
Oui, oui, c'est un espèce de gros ballon où tu fais de la planche à voile puis t'es à genoux. Puis j'en ai fait jusqu'à 35 semaines à peu près.
Faut noter que moi, je suis incapable de lever la voile avec une planche à voile à genoux qui est pour débutante.
Oui, oui, c'est quand même assez exigeant.
C'est difficile.
Puis ben c'est ça. Ben, fait que tu sais, je suis restée active là quand même toute ma grossesse. Puis j'ai été vraiment chanceuse. J'ai eu à peine des nausées un petit peu au début. Ça a super bien été tout le long. T'sais, on a fait du ski de fond pendant l'hiver, tout ça. On a joué au tennis tout l'été. Puis, c'est ça, dans le fond, le seul petit là, problème, là, si on peut dire, que j'ai eu, c'est qu'à partir de 35 semaines et demie, à peu près, je me suis mis à enfler. Mes rétentions d'eau, là, énormes. Puis, vous me voyez clairement pas, là, mais je suis très, très petite de nature. Et là, je me suis mis à enfler. J'avais les gros joues, les gros pieds.
Elle avait des pieds de
jambes.
Honnêtement, je regardais les pieds, puis comme waouh.
Mais je sens le poil quand même. Puis c'est ça. Fait là, je me suis mis à enfler et à partir de ce moment-là, j'arrêtais pas de chialer. Tu sais, il aurait pas fallu que j'aie une grossesse difficile. J'étais plus capable de m'endurer. J'avais on avait levé le bout du lit parce que fallait que je désenfle un peu pendant la nuit. J'ai travaillé jusqu'à la fin. Dans le fond, moi, mon but, c'était de travailler jusqu'à 38 semaines. Par chance, je travaillais de la maison, assis à mon bureau. Mais le fait d'être assis tout le temps, ça augmente la rétention d'eau. Donc, à partir de 35 semaines et demie, là, je m'endurais plus. Puis je pense qu'Édouard m'a entendu parce que à 37 semaines et demie, donc quand même pas mal avant ma date, je suis allée jouer au tennis le matin. Là,
on avait, comme on fait tout oui, à 37 semaines et demie. Hein?
Oui, non, on s'est dit, on va-tu faire une coupe d'échange, là, tu sais, tennis, c'est au coin de la rue. Là.
Un petit dimanche matin, relax, on réserve le terrain pour 9h. 9h45, on a assez, rentre à la maison. Puis 10h15, 10h30, je suis couchée sur le divan, puis je perds les os. Donc là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai envie de pipi. Je me lève et incontinence soudaine. Je suis comme, oh mon Dieu, ça prend tout pour que je me rende aux toilettes. Et là, je suis déjà comme tout trempée. Puis là, je suis comme, mon Dieu, Seigneur, là, je suis désolée, mais je viens de faire pipi partout dans la maison, là. Puis là, je fais pipi pendant 5 minutes. Puis...
Marie, c'est parce que j'arrête pas de faire pipi.
Fait qu'après 5 minutes, je me dis, je fais pas pipi. Je perds les os.
Ben, écoute, je vais aller te chercher des pipipads, là, en attendant.
Fait que toi, t'es partie pendant que Caroline est à la toilette en train de faire pipi, entre guillemets, mais clairement perdre
les os.
Je perds les os. Toi, tu t'en vas chercher des pipipads?
Oui. Oui, mais
la pharmacie est à 1 km.
À terme.
Mais là, dans le fond, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai un suivi sage-femme. Mm-hmm. Donc, moi, la sage-femme, puis tout ça, tu sais, on a eu plusieurs rendez-vous, puis tout ça, puis je m'attends pas à accoucher d'avance. Moi, dans ma tête, ma mère a accouché à 40 semaines, ma soeur a accouché à 40 semaines. Moi, je m'attends à accoucher à 40,
41, puis... Ben nous, on se fait dire que c'est un premier bébé. C'est sûr que tu vas accoucher, tu n'accoucheras pas en avance.
Bon, ça, okay. ça va être un long accouchement. Moi, je suis mindée là, à avoir des contractions pendant 30 heures, que ça soit dur, parce que c'est ça que moi, j'ai entendu autour de moi dans ma famille. Ma sœur a eu quand même des accouchements assez longs et difficiles. J'ai accompagné ma sœur sur ses deux accouchements en maison de naissance et elle a transféré finalement à l'hôpital pour ses deux accouchements pour avoir l'épidurale parce qu'elle n'en pouvait plus, c'était difficile. Puis ça, fait que moi, je suis mindée à être en maison de naissance puis à rester en maison de naissance pour l'accouchement au complet.
Mais t'es aussi prête à ce que ça soit genre catastrophique, douloureux et long,
oui,
là.
Moi, je me dis, je veux pas l'épidurale, faut que je sois prête parce que ça va être long puis ça va être dur puis va falloir là que je me gère.
Alors, j'ai appris les points de pression.
T'as appris les points de pression.
Ouais, pour la douleur, ça nous a été tout à fait inutile.
Puis là, c'est ça, c'est que dans le fond, la sage-femme nous dit, là, si tu perds les os, capote pas. Là, t'as pas besoin de courir à la maison de naissance. Si jamais ça arrive, faut quand même que t'attendes que le travail commence. Parce que si t'as pas de contraction, puis ça sert à rien que tu t'en viennes, là. Relaxe chez vous, prends ton temps, puis ça. Donc, il est 10h30 à peu près, appelle la sage-femme debout dans mon bain, les fesses à l'air, parce que là, je coule non-stop, puis ben, va falloir aller chercher des pipipades. Mais avant d'aller chercher des pipipades, on se dit, je vais appeler quand même ma sage-femme, tu sais, la mettre au courant que je vais accoucher. Mm-hmm. Et là, je la réveille clairement. Tu sais, il est 10h30, puis elle me répond avec une voix fatiguée, tu sais. Puis là, je suis comme, c'est louche. Et là, elle me dit, OK, Caroline, mon Dieu, mais t'étais pas dans notre horaire, là, comme... T'es pas supposé accoucher, là. Je suis comme, ouais, non, je sais, mais je perds les os, fait qu'on aura pas le choix, hein. Faut que ça se fasse dans les 24 prochaines heures, donc... Et comme, OK, hey, je viens d'avoir un accouchement de comme, plus que 24 heures, qui était difficile, ça s'est fini à l'hôpital, puis tout ça. Elle dit, moi, je vais dormir un peu. Elle dit, quand ton travail va avoir commencé, pour vrai, rappelle-moi. Je suis comme, OK. Fait que moi, j'attends d'avoir des contractions fortes et constantes, donc plus qu'une minute aux 5 minutes, c'est notre règle. Fait que elle dit, pendant ce temps-là, là...
Vite ta vie, là,
profite de ta journée. Fait que je suis comme... ben, tu sais, essaie de te reposer quand même, là, parce que t'as un accouchement qui s'en vient. Là.
Mais on se rappelle que, tu sais, elle perd ses os, donc...
Ben là, moi, je suis pris dans le bain.
Elle veut pas vivre sa vie, là.
Vous pouvez pas aller bruncher, là.
Non, non, non. Fait que c'est ça. Fait que là, on se dit, bon, ben, Maryse, va à la pharmacie, va chercher des pipipads, je vais faire du ballon, puis du ballon, des gros ballons d'exercice là, pour aider le bébé à se placer, puis tout ça. Puis on va regarder la télé, puis on va dîner, je commence à avoir faim. Là.
Mais t'as appelé ta mère aussi entre-temps, là, qui, je pense, qui était inquiète là, que je sois partie chercher des...
Oui, c'est
des
ça, je l'ai appelé pendant que t'étais à la pharmacie, puis oh mon Dieu! Hey, là, si t'as besoin de quelque chose, tu nous le dis, puis on va y aller. Je veux que Maryse reste avec toi à la maison. Je suis comme, maman, elle est partie genre 7 minutes, là. Comme, j'ai aucune contraction, là. On se calme. Rendu à comme 2h30 de l'après-midi, là, on commence à avoir des vraies contractions. Fait que là, rappelle la sage-femme, là. Elle me dit, ah, ouais, t'es pas encore assez constant. Va dans le bain 20 minutes. Puis si tu ressors puis que c'est encore quand même pas mal constant, rappelle-moi puis on va aller à la maison de naissance. Fait que je suis comme, OK. Fait que je rentre dans le bain puis sont quand même durs à, tu sais, sont quand même fortes, mais sont pas super constantes. Fait que, puis là, moi, dans ma tête, je vais avoir des contractions comme ça pour les 30 prochaines heures. Là, fait que je suis pas stressée pendant tout. Et là, finalement, à peu près 20 minutes plus tard...
J'ai appelé la sage-femme.
Oui. Et là, j'ai des contractions aux 4 minutes. Elles sont extrêmement fortes. Je suis plus capable de parler. Et là, je suis comme, on a peut-être un petit peu trop attendu. Il va falloir qu'on y aille. Mais notre sage-femme habite à 45 minutes de la maison de naissance.
Oui. Bon, mais on va se rejoindre à comme 6h30. Moi, je suis comme, il est 5h, là. Je suis comme, on fait quoi, là?
Puis vous habitez à combien de temps de la maison de
20
naissance?
20 minutes.
15 minutes.
Ouais, 15. Mais mettons 20 parce que je devais rouler lentement, là.
Fait que là, vous partez?
Là, c'est ça. Là, moi, je suis dans un mood... Je suis comme vraiment, là, mon minding a changé et je suis comme devenue un peu dans le même esprit que j'étais quand je faisais de la compétition où je savais que... Je faisais de la compétition de course, en fait, là, puis, tu sais, le avoir mal aux jambes mais devoir continuer à courir, là, je tombe dans ce mood-là de... J'ai des contractions, ça fait mal, mais il faut que je reste détendue parce qu'il faut que mon col ouvre, puis ça va être correct. Puis je vais les gérer, les contractions, puis j'aurai pas d'épidural. Fait que moi, je suis comme super concentrée. Let's go, on s'en va à coucher. Et là, je me dis, en ce moment, j'ai de la misère à être dans une position confortable. Je m'en vais m'asseoir dans une voiture. Je suis incapable de gérer des contractions assises. Fait que je suis comme, là, Maryse, tu vas rouler lentement. Tu manques pas de nid de poule. Si on suit des voitures, t'es suivi de loin, parce que je veux pas qu'on freine sec. Et là, je suis vraiment là en germaine.
Mais là, quand t'arrives à la maison de naissance, donc, oui. Ils t'installent dans ta chambre, t'es dans ta bulle, Maryse est là pour
oui,
t'aider.
Oui, puis là, dans le fond, la seule chose, tu sais, qui était un petit peu imposée, je dirais, que il a fallu qu'elle fasse un toucher vaginal pour savoir j'étais dilatée à combien. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils t'en font vraiment pas pour rien, là. Contrairement à ce qu'on voit souvent à l'hôpital pour juste voir tes rendus où, tu sais, la sage-femme ne te fera jamais un toucher si c'est pas nécessaire ou si tu le demandes pas. Je me suis installée sur le dos, sur le lit. J'avais de la misère à juste gérer les contractions et la pression que ça a faite. J'ai crié ma vie, là. Mon Dieu, que ça se passait pas bien. Tu sais, je faisais beaucoup de sons de gorge comme très graves pour gérer les contractions puis tout ça, mais à ce moment-là, là, je ne pouvais pas me gérer, puis j'étais tellement pas en contrôle parce que c'était pas ma propre douleur, c'était quelqu'un qui me l'imposait. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et
mais t'étais à combien quand t'as
donc
fait
là
le toucher?
C'est ça, donc à fait toucher, je suis comme dilatée à 5 et demi. Fait que ça va bien, j'ai pas toutes ces douleurs là pour rien. Ça se passe bien et à partir de ce moment-là, je peux revenir dans ma bulle et on me laisse tranquille, les lumières sont tamisées et là, je vis mes contractions.
Puis, la seule demande de Caroline, c'était de pouvoir accoucher dans le bain de la maison de naissance parce qu'il y en a seulement un. Donc, il était disponible. Donc, j'étais installée dans le bain.
Oui, fait que c'est ça. Dès que j'ai pu, là, je suis rentrée dans le bain, ça a quand
même... Ils te remplissent d'eau, puis
oui,
là,
c'est
tu
ça,
t'installes
on a rempli le bain, tout ça. Puis finalement, j'ai eu trop chaud. Il a fallu que je ressorte. Puis finalement, je suis retournée dans le bain un peu plus tard. Puis là, les contractions de poussée sont arrivées, finalement. Mais tu sais, je dis finalement, puis ça n'a vraiment pas été si long. Là, on est rendu au soir. Puis... Fait que là, c'est ça, les contractions poussées arrivent, puis la sage-femme me met pas de pression. C'est comme, tu sens que ça pousse, laisse pousser, retiens pas, mais laisse pousser, puis pousse pas trop fort. Dans le fond, c'est que plus tu pousses fort, plus il y a de chances que tu te déchires, tu sais, parce que tu vas contre ce que ton corps est comme prêt
mais
à
c'était
faire.
Plus laisse ton bébé travailler avec toi pour qu'il fasse un chemin. Mm-hmm. Puis ouais. Force pas trop.
Fait que, tu sais, les contractions, j'ai comme oublié c'est quoi la douleur, là, maintenant que ça fait un an et demi que j'ai accouché, mais la pression de la poussée, ça, je pense pas que je vais jamais l'oublier. Ça fait tellement mal. Mais rendu là, il est trop tard. Tu peux plus rien faire. Puis tu sens que ton corps déchire, là. Tu sais, t'es vraiment en train d'ouvrir en deux. Fait que ça a été difficile. Puis c'est là que j'ai finalement été malade. Puis là, il fallait pas me déranger. Mané, il y avait une stagiaire sage-femme qui était avec nous dans la salle. Puis elle est arrivée avec une cuillère de miel, tu sais. Veux-tu du miel? Puis j'ai fait comme...
Pourquoi?
Non! Puis après ça, je me suis rendu compte... Après l'accouchement, je me suis dit, oh mon Dieu, je l'aurais pris, sa cuillère de miel. J'avais tellement mal à la gorge à force de crier!
Mais j'ai... On parle de Caroline, à quel point elle extériorise pas beaucoup ses émotions, etc. Mais je l'ai jamais entendu crier autant et aussi fort.
On n'était plus dans les belles vocalises graves. Là.
Oh non.
C'était des cris épouvantable.
C'était tellement fort, moi, j'en revenais pas.
Mais toi, tu faisais quoi pendant que Caroline était dans le bain?
Elle mettait une petite serviette sur ses épaules, puis elle l'enlevait.
On se faisait des signes, puis je restais là au cas où, en fait. J'étais là où je tenais la main. J'avais tout le temps mon bras à proximité pour qu'elle puisse le serrer ou prendre ma main, ou si elle avait besoin d'une petite serviette, d'un verre d'eau, je m'occupais pour qu'elle reste toujours hydratée. Ça, oui.
Et là, à un moment donné, je commence à être tannée. C'est long, là. Ça fait comme 45 minutes que je pousse. Fait que je me dis, mais allez voir le bébé est rendu où? Parce que moi, j'aime ça être en contrôle. J'aime ça savoir ce qui se passe. Fait que, j'ai touché au bébé. Entre mes jambes, là. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, qu'il est rendu encore haut. Tu sais, il est pas si bas que ça, là. Et ça va-tu sortir, à un moment donné? Fait que j'ai touché à peu près entre chaque contraction, voir où est-ce qu'il descendait, tu sais. Puis, à un moment donné, il est arrivé vraiment proche, puis j'ai dit à Maryse, tu sais, va y toucher. Comme notre bébé, il s'en vient, là. Il est juste ouais. là. Puis, avant qu'il soit pris dans le trou, puis que là, je me gère plus, touche-y, là, je suis encore dans un bon mood. Fait que, tu sais, j'avais comme besoin de cette bulle-là aussi, mais j'avais quand même conscience que. C'était son là. Bébé qui s'en oui. venait aussi. Là, je voulais qu'elle sente qu'il arrivait. Là.
Fait que là, t'es allée le toucher, Marie?
Oui, oui. Oui. J'étais allée toucher. Caro, elle a juste pris ma main, puis j'étais allée toucher sa petite tête. J'ai senti ses cheveux. Je pense que ça permet de voir à quel point c'est concret. Il est proche. Puis, tu sais, moi, je le vis pas physiquement, l'accouchement, mais j'ai trouvé ça quand même bien que Caro a eu la présence d'esprit durant entre deux contractions de me dire d'aller toucher. Mais oui.
Ah, oh, ouais. Mon c'est Dieu! Puis là,
petit garçon
après...
qui s'en vient. Donc là, c'est ça. Là, je pousse, puis là, il arrive. Puis là, rendu à ce moment-là, j'ai comme cette phase de je suis découragée. Puis là, à un moment donné, je dis, mais il sortira jamais. Là. Comme c'est impossible, là, ça passera pas. Sa tête est bien trop grosse. Puis la sage-femme qui est comme oui, il va passer, ça va bien, puis ça, puis là, maintenant, je pousse, et là, il y a comme un splouche de sang qui se répand dans le bain. Et là, je m'en rends plus ou moins compte, là, pour moi, du sang dans un accouchement, c'est tout à fait normal.
Ouais, moi aussi, j'avais pas comme. J'avais pas conscience que c'était dangereux.
Et là, je vois le changement d'attitude. Elle a été à l'écart tout le long, puis ça, et là, je vois sa face un peu changer, puis elle dit « Là, à la prochaine contraction, il faut qu'il sorte. » Et je l'ai forcée, cette contraction-là. Elle était extrêmement difficile et la tête est restée coincée. Tu sais, comme vraiment là, au milieu de la tête. Et ça, c'est comme le pire moment. Là. Ils appellent ça le « ring of fire ». Là. Et là, je suis dans un état de « là, la prochaine contraction, il faut qu'elle arrive, là. » Parce qu'il faut qu'il sorte, il peut pas rester là. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. J'ai vraiment l'impression de déchirer en deux. dans le fond, à ce moment-là, le saignement a arrêté. Et la sage-femme s'est comme un peu retirée, bien, retirée verbalement, on s'entend qu'elle était toujours, toujours proche, mais c'était correct. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de détachement du placenta, puis c'est ça qu'elle avait peur, parce que là, dans ce temps-là, c'est que ton bébé va manquer d'oxygène. Et finalement, ça a été juste un petit caillot de sang comme qui a passé, puis finalement, ça a été correct. Puis finalement, la contraction d'après, le bébé est sorti, et là, je me suis comme effondrée dans le bain. La sage-femme a récupéré le bébé qui était dans l'eau, et là, je le prends sur moi.
Moi, à ce moment-là, je suis devant Caroline et le bébé. Puis là, je suis comme un peu figée jusqu'à ce que Caroline me dise...
Mais là, viens-t'en, tu vas le voir, parce que là, elle voit juste son derrière de tête.
Oui, puis là, c'est comme « Allô? » Puis à ce moment-là, on savait pas non plus, il s'appelait comment, donc ça a été « Allô?
»« Allô, bébé?
»« Allô, petit garçon? »« Allô, bébé? » Puis, ouais, puis on dirait que moi, j'étais encore dans ce mode de performance de faut que j'accouche, faut que je gère mes contractions et tout ça. Fait que, on dirait que je l'ai regardé, je suis pas tombée instantanément en amour. La première chose que je me suis dit, c'est oh mon Dieu, il est donc bien gros.
Le bébé est né à 37 semaines, il pesait 8 livres.
Oh! Ouais. Mais t'aurais jamais pu te rendre à 40.
Ben là, c'est ça. Moi, il y a tout ça qui passe dans ma tête, là. Puis, tu sais, oui, je le trouve beau, mais en même temps, il est tout blanc, plein de vernix, puis un peu gluant, puis un peu bleu parce qu'il est né dans l'eau. Fait que ça prend plus de temps avant que l'oxygène se rende.
T'es dans le bain, t'as ton bébé sur toi qui est beau, correct, mais qui est...
Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, Marie se tombe plus en amour avec le bébé. Marie a une petite larme, puis tout ça. Moi, je suis encore comme un peu troublée par tout ce que je viens de vivre. Et là, justement, ils sont comme, OK, là, faut sortir du bain. On va te faire accoucher le placenta dans le lit parce que ça va être mieux pour tout le monde. Il faut quand même qu'il pense à la sécurité de tout le monde aussi, puis tout ça. Mais mon bébé va extrêmement bien. Il pleure, tout ça. Donc, on n'a pas aucune inquiétude. On
le regarde. Bébé, qui est Édouard, qui est sur toi, qui a commencé à téter, je crois, aussi.
Pas tout de suite, mais c'est ça. T'sais, on regarde notre bébé, on commence à tomber en amour avec, puis là, OK, là, il faut accoucher le placenta. Fait que la sage-femme m'aide un peu, tire sur le cordon.
Il y a un beau pétrissage là, de ventre aussi
qui va s'en suivre.
Qui a eu l'air douloureux aussi.
C'était extrêmement douloureux. Comme, tu sais, à ce moment-là, t'es plus dans l'acceptation de la douleur. Là. T'es comme là, c'est supposé être fini. Là. Tout a été accouché. Pourquoi ça fait encore mal? Là? On est couché dans le lit. Moi, j'ai Édouard sur moi. Et Maryse est comme à ma tête. Et là, je dis à ma tête parce qu'on a un beau bol avec un placenta enveloppé dans un linge à vaisselle qui est entre nous deux.
Oui, donc on est couché semi en cuillère avec un Tupperware avec le placenta et puis le bébé. Okay.
Parce que dans le fond, on a choisi de pas couper le cordon immédiatement parce qu'on voulait que l'échange sanguin se fasse le plus longtemps possible. Ça booste leur taux de globules rouges. Puis bon, ça a certains avantages tout ça. Puis ben nous, on n'était pas pressés de le couper. Donc on a gardé le placenta avec nous dans le lit pendant un certain temps. Et comme je disais, mon cordon était un petit peu court, donc il était très proche de nous.
On a aussi changé de chambre ensuite, transporter le bol avec le cordon puis le bébé, c'est de toute beauté.
Ben oui, j'espère que vous avez pris des photos de ça.
Non.
Ce qui est vraiment super puis qu'on a vraiment beaucoup apprécié d'accoucher en maison de naissance, c'est que une fois que tout est beau, que j'ai été recousue, puis qu'ils ont fini d'examiner tout le monde pour être sûr que tout le monde est en santé, ils nous saclapent.
Mmh. Oui, on était vraiment quelques heures avant qu'ils reviennent juste faire le check-up sur le bébé, puis...
Ça a pris comme une heure et demie, je pense, avant qu'on coupe le cordon.
Moi qui ai coupé le cordon aussi. Oui.
Et puis vous êtes restée combien de temps à la maison de naissance?
Une nuit.
C'est ça. Dans le fond, on a attendu le lendemain qu'ils viennent faire l'examen, genre, à l'intérieur des 24 heures, là, du bébé. Tout ça, j'ai commencé à l'allaiter. Au début, ça se passait quand même bien. On s'est rendu compte après qu'il t'était pas super bien, puis ça a été plus compliqué, mais T'sais, tout était beau en sortant de la maison de naissance. On est parti en après-midi. Donc, t'sais, moi, j'ai eu un accouchement là, entre les contractions, le vrai travail, puis la délivrance. Ça a duré 7 heures. Fait que, au final, moi, là, mon 30 heures prévu, là, c'était pas ça pantoute, mais
on
ça a été...
On avait amené des jeux de société, on les a pas déballés.
Non. Ah ouais, on avait vraiment amené plein de stocks pour passer le temps, là. On a rien utilisé, tout ça. Fait que, j'ai eu un accouchement beaucoup mieux que ce que j'avais prévu.
On n'a pas eu de pause, vraiment. Mm. Ça s'est fait vraiment, vraiment rapidement, puis tant mieux parce que...
Bien, j'ai l'impression, c'est comme si toute votre difficulté était avant.
Oui,
oui. Tout a vraiment été dur avant, mais là, on dirait qu'à l'accouchement, ça a comme fait, hey, on va vous donner un break, là. On va faire ça vite, on va faire ça bien. Vous avez déjà assez eu de troubles.
Oui, oui, c'est ça. Puis honnêtement, moi, tu sais, pour ma part, dès que j'ai vu la petite face de bébé à Edouard, moi, je suis tombée en amour. Ça m'a fait oublier tout le avant, justement, qui est plus complexe, plus lourd, beaucoup moins magique, là, on va se le dire. Puis, oui, juste voir sa petite face, le prendre dans mes bras, c'est pour moi, là, c'est mon petit amour déjà, là.
Puis en terminant, c'est la question que je pose tout le temps à mes invités. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux futures mamans qui nous écoutent ou aux mamans qui nous écoutent ou peut-être même à celles qui vont passer par un chemin similaire au vôtre?
Ben moi, je dirais de s'écouter, vraiment, de ne pas suivre tout ce qui est pression sociale ni ce que les autres te disent. Il faut vraiment que tu y ailles avec ton corps, avec... ton mental aussi, si ton corps est pas là, si ton mental est plus là, la motivation est plus là, je pense que ça vaut peut-être moins la peine.
Il faut trouver d'autres choses. Il faut rester dans le positif. Mais moi, je pense que j'aurais deux choses. La première chose aux personnes qui vont accoucher, oser dire non, oser prendre des décisions. C'est votre accouchement, c'est pas celui de personne d'autre. Puis si vous pensez que vous êtes capable, bien, vous allez être capable. C'est pas parce que votre chum trouve que vous souffrez donc puis que vous avez besoin d'un épidural que vous n'avez besoin nécessairement. Ça, c'est ma petite chronique pour les sages-femmes et tout ça. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est vos choix. Puis si vous la voulez, l'épidural, c'est parfait. Prenez-la. Mais choisissez comment votre accouchement va se dérouler le plus possible. Et deuxième chose, c'est aux parents, expliquer aux enfants qu'il n'y a pas juste une façon de faire des bébés. C'est pas toujours simple, puis c'est correct comme ça. Il y a des gens qui adoptent, il y a des gens qui doivent passer par la fertilité, il y a des gens qui vont avoir des bébés par erreur, mais toutes ces façons-là sont bonnes d'avoir des enfants, puis je trouve que c'est important de le dire et de pas juste expliquer à ses enfants comment vous l'avez conçu. Parce qu'après ça, ces enfants-là vont grandir avec toutes ces options-là en tête, puis quand eux vont vouloir avoir des enfants, puis que ce sera peut-être pas si simple que ça, ben pour eux, ça va être normal.
Merci. Merci beaucoup. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.